tant que créateur, en tant qu'initiateur de l'entreprise. Comme je vous ai dit, c'est un grand privilège. C'est vraiment un rôle important de se retrouver être créateur d'entreprise. C'est un impact que vous avez dans votre société. C'est quelque chose que vous apportez dans votre société. Mais ce que vous devez savoir, c'est que plus que l'idée, vous devez avoir comme objectif de faire une entreprise qui dure. Une entreprise qui réussit. Parce qu'on a trop d'exemples d'entreprises, de belles idées qui ont fini en queue de poisson. N'est-ce pas? Est-ce que vous n'avez pas beaucoup d'exemples de ça? De belles idées, de bons projets. Et finalement, ça finit en queue de poisson. Pourquoi? Par rapport aux créateurs d'entreprise. Qu'est-ce qui fait de vous un vrai leader? Qu'est-ce qui fait de vous un bon créateur et un bon manager? On va le voir ici. Mais d'abord, on a dit qui peut créer l'entreprise? Vous savez, dans 1 Pierre 2,9, il est dit quelque chose que j'aime bien. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quand on dit vous êtes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte, un sacerdoce royal, est-ce qu'il y a plus grand que ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plus grand que ça? Comme capacité? Je ne vois pas. Ensuite, il est dit quelque part. Par contre, il dit quelque part en Josué 1,6, fortifie-toi seulement et prends courage. D'accord? Je vais retenir. Fortifie-toi seulement et prends courage. Fortifie-toi. C'est parce que, ici, permettez-moi de vous remettre dans le contexte de Josué. Josué et le peuple d'Israël a quitté l'Égypte. L'Égypte est arrivé au bord du Jourdain pour prendre possession de son territoire. Vous savez, quand vous êtes entrepreneur, vous devez prendre possession d'un territoire. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes comparé à quelqu'un qui doit prendre possession d'un territoire, d'un marché. Un entrepreneur, c'est ça. Il doit prendre possession d'un marché. C'est ce qu'on dit, la part de marché. Même dans un secteur qui existe déjà, où il y a déjà des gens qui font des choses, vous avez votre place. Donc, c'est une conquête. Entrepreneur, c'est une conquête. Mais parfois, on ne se prépare pas à la conquête. On n'a pas l'impression que c'est vraiment une conquête. Moi, j'ai vu quelqu'un dans ce pays-là, d'ailleurs, je suis allé le voir, c'est quelqu'un qui a fait une industrie. Une industrie de jus. De jus, de fruits et tout ça. De jus de fruits, de yaourt, de lait et tout ça. Et dans ma prospection, je suis tombé sur lui et on m'a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour le conseiller sur le marketing et tout ça. Et je suis allé le voir. La première question que je lui ai posée, je lui ai demandé, quel est votre organigramme? Il m'a dit, ok, c'est moi le chef, il y a quelqu'un qui s'occupe des finances, il y a quelqu'un qui s'occupe de la production à l'usine. Et je lui demande, qui s'occupe de la commercialisation? Non, en fait, bon, pour le moment, il n'y a personne. Je dis, attends, je ne comprends pas. Votre entreprise, vous avez créé ça pour fabriquer des produits ou vous avez créé pour vendre des produits? Vous voyez la différence? Il met en place une usine sans prévoir comment vendre les produits. Ce n'est pas possible, c'est inimaginable. On ne se prépare pas à la conquête du marché parce que son entreprise, là, ce n'est pas pour faire des produits qui vont rester dans les magasins, du stock de produits finis. C'est pour vendre. Et donc, conquérir un marché, conquérir un territoire, il n'est même pas prêt. Quand vous allez créer vos entreprises, la première fonction à mettre en place, c'est la fonction marketing et commerciale. Écoutez-moi, notez ça bien. La première fonction, c'est la fonction marketing et commerciale. Pourquoi? Pour connaître le marché. Quand je fais le parallèle avec Josué, qu'est-ce qu'il fait? Pour prendre possession du territoire, il a envoyé 2 espions. Donc, il a envoyé son directeur commercial et son directeur marketing. À Jéricho. Il a envoyé 2 espions, le directeur commercial et le directeur marketing. Ils sont partis espionner Jéricho pour savoir comment ils sont, qu'est-ce qui se passe là-bas, quel est le marché, quel est le besoin, pour pouvoir mesurer les forces qu'il doit utiliser afin de conquérir son territoire. C'est le début de toute planification, c'est ça. C'est connaître le marché, connaître la conquête. Parce que comment est-ce que... Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que ne prenez jamais le départ d'une course si on fixe la ligne d'arrivée. C'est exactement pareil. Parce que si tu sais que c'est 100 mètres que tu dois courir, tu sais qu'il faut mettre beaucoup plus d'efforts au départ, n'est-ce pas? Il faut économiser ton souffle pour souffler vers la moitié du chemin et puis accélérer. Alors que si c'est 42 km, tu sais qu'il faut commencer à courir doucement. Hein? Si tu cours une course de 42 km comme une course de 100 mètres, on va te ramasser avant la fin. N'est-ce pas? Tu ramasses avant la fin. Il faut connaître ton territoire. Et donc, ici, on nous dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je lui donne à leur père. Je fais la parallèle ici avec votre entreprise. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui vas conquérir ces parts de marché. Où on va? Fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire toi-même, qui va conduire le peuple. Donc, ce peuple est arrivé au bord du Jourdain. Il y avait un leader avant, qui était Moïse, et ce leader est en train de passer la main à Josué. Donc, il l'encourage. Donc, il est au début de sa création d'entreprise, de sa conquête. Donc, il l'encourage. Fortifie-toi et prends courage. Parce que c'est vous, en tant que leader, qui allez faire la différence. Qui allez faire la différence. Après, vous ne pourrez pas accuser les gens, vos collaborateurs, accuser le marché, accuser le gouvernement. Non, c'est vous. Fortifie-toi et prends courage. Ensuite, il dit encore, ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ça, c'est encore dans Josué 9. Pour dire à quel point est-ce que Dieu a insisté sur le fait de se fortifier, de prendre courage. Mais écoutez-moi très bien. Comment on dit quand. Laissez-moi vous dire, Rekamougir, c'est ça? Laissez-moi vous dire cette chose très très importante. C'est Dieu qui a choisi Josué. C'est clair? Il l'a choisi en connaissant ses compétences. Mais c'est lui aussi qui lui dit, fortifie-toi et prends courage. Vous comprenez? C'est pour dire qu'il y a une part que Josué doit jouer. C'est pour ça que je dis que vous avez 100% de responsabilité de votre vie. C'est très simple. Si vous êtes d'accord que tout ce que vous êtes aujourd'hui est la conséquence de vos choix d'hier, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous êtes aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? C'est que tout ce que vous serez demain sera la conséquence de vos choix d'aujourd'hui. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Donc, le leader, c'est celui qui a du courage. C'est celui qui se fortifie. Il n'a pas dit sois fortifié par tes collaborateurs. Il n'a pas dit sois fortifié. Il a dit fortifie-toi. N'est-ce pas? Ça veut dire s'auto-motiver. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi sans que personne ne leur fasse confiance. N'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas vrai ça? Il y a beaucoup de gens qui ont réussi sans que personne ne leur fasse confiance. D'ailleurs, la réussite, comme disait, je crois que c'est un tennisman, une des sœurs Williams, je ne sais pas c'est laquelle, Serena ou Venus, qui a dit que vraiment, elle réussit, elle pense que la réussite, c'est croire en soi-même quand tout le monde a perdu confiance en toi. Et il y a beaucoup de gens qui ont réussi sans que personne ne leur fasse confiance. Mais je vais vous dire quelque chose. Personne n'a réussi en ne se faisant pas confiance. Lui-même. Personne. Par contre, beaucoup de gens ont réussi sans que personne ne leur fasse confiance. Mais personne n'a réussi en ne se faisant pas confiance lui-même. Self-confidence. Personne n'a réussi. Moi, je ne vois pas ça. Regardez dans l'histoire, dans machin, personne n'a réussi en ne se faisant pas confiance. D'ailleurs, très souvent, quand vous n'avez pas confiance en vous-même, vous n'inspirez pas la confiance chez les autres. On vous voit en train de douter. On dit, le chef même, il doute. Ah. Le chef même, il doute. Alors, qu'est-ce que le leadership? Moi, je vais vous donner une définition. C'est la capacité
a influencé et inspiré, pardon, une faute ici, inspiré un groupe de personnes afin qu'ils travaillent volontairement ensemble à l'accomplissement d'un but précis. Je n'avais pas mis inspiré, je l'ai rajouté. C'est la capacité à influencer et à inspirer un groupe de personnes afin qu'ils travaillent volontairement ensemble à l'accomplissement d'un but. Quels sont les mots clés? Dites-moi. Quels sont les mots clés ici? Influencer? Inspirer? Travailler ensemble? Ah, volontairement! Il y en a qui travaillent ensemble, pas volontairement. Dans une armée, les gens ne sont pas volontairement en train de travailler ensemble. N'est-ce pas? Dans l'armée, est-ce qu'ils travaillent volontairement ensemble? Ils travaillent sous un commandement. Travailler là. Je vais vous symboliser le fait de travailler ensemble. Quelle est l'idée? C'est un consultant français qui l'a développé. Il a dit, c'est l'exemple du soldat. Le soldat et puis le pianiste. Mais moi, je veux dire le soldat et puis le pilote d'avion. Je vais paraphraser ça. Vous savez, il y a quand vous êtes un caporal a du mal à faire marcher au pas. À faire marcher au pas. 15 soldats. Il peut passer 10 jours. Les nouvelles recrues, quoi. Un caporal, les nouvelles recrues, il peut passer 10 jours à vouloir les faire marcher au pas. Gauche, gauche, droite, gauche, droite. Qu'est-ce qui se passe? Toujours, il y a quelqu'un qui fait droite, gauche, droite, gauche. Ça se mélange toujours. N'est-ce pas? Hein? Parce que nous, on a fait pionnier, on a fait un peu la formation militaire. Au temps de Sankara. C'était obligatoire. Donc, et c'était difficile. Après, vous prenez les armes, vous ne devez pas vous loquer. C'est pas facile. Vous voyez le défilé, là? Ils ont passé combien de jours en s'entraîner pour le défilé? Tous les jours, moi j'habite à Roiro ici, je les voyais tous les jours que je vais au travail, je les voyais s'entraîner. C'est des militaires, hein? Mais ils s'entraînaient tous les jours pour marcher correctement. Donc c'est difficile. Par contre, récemment, je venais avec Ethiopian. Quand on a atterri à Addis, on a atterri vraiment en douceur, on appelle ça. On n'a même pas senti qu'on a atteint le sol. Et en 3 secondes, tout le monde a commencé à applaudir. Et en 3 secondes, on avait commencé à applaudir en cadence. Tous, on applaudissait ensemble, sans que personne n'ait donné l'ordre. Pourquoi est-ce que on était combien dans l'avion? On était peut-être une cinquantaine. Pourquoi est-ce que 50 personnes, 50 paires de mains arrivent à trouver une organisation, à applaudir une cohérence en 3 secondes et 10 militaires n'arrivent pas à marcher au pas pendant 10 jours. Dites-moi pourquoi. Vous savez pourquoi? Volontairement. Parce que nous, on a décidé dans la vie, on a décidé volontairement d'applaudir. Personne ne nous a dit amachi. C'est amachi, on dit. Personne ne nous a dit amachi ou applaudissez. On a commencé volontairement à applaudir. Mais ces militaires-là, ils n'ont pas envie de marcher ou pas. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas le choix. C'est pareil que dans une entreprise, quand vous ne permettez pas aux gens volontairement de travailler, vous n'allez jamais avoir le maximum d'eux. Avant, on l'appelait le personnel main-d'œuvre. Vous savez pourquoi? Main-d'œuvre. Parce qu'on n'a besoin que de leurs mains. C'était ça. C'est pour ça qu'on disait main d'œuvre. On a besoin que des mains pour travailler. À l'époque, c'était ça. Les usines, c'est creuser les trucs. C'est des mains qu'on voulait. Mais aujourd'hui, quand vous allez créer une entreprise, vous verrez que vous n'avez pas besoin des mains seulement. Vous avez besoin de l'intelligence des gens. Ce n'est plus la main d'œuvre. On appelle ça désormais le capital humain. N'est-ce pas? C'est du capital. Ce n'est plus la main d'œuvre, c'est du capital humain. Donc on a besoin de l'intelligence des gens. Pour avoir l'intelligence active des gens, vous pouvez pas ne pas les traiter de sorte de les inspirer de sorte qu'ils veuillent volontairement. La différence entre la dictature et le leadership, c'est ça. N'est-ce pas? C'est le mot volontairement qui fait la différence. Sinon, vous enlevez volontairement, vous dites obligatoirement et ça devient en haut dictature. Ce n'est plus leadership. C'est devenu dictature, tout simplement. Alors qu'en tant que leader, on ne peut pas être dictateur parce que ça ne dure pas. Il y a des gens qui travaillent actuellement. Quand Ils sont là, ils sont là. Quand tu leur dis, pourquoi tu ne vas pas en congé? Ah, si je vais en congé, l'entreprise ne va pas marcher. Vraiment, ils ont besoin de moi. Ils n'ont pas besoin de vous. Vous êtes mal organisé. Vous devez être capable de partir en congé sans problème. Si vous êtes un bon leader. N'est-ce pas? Vous partez et ça fonctionne derrière vous. Parce que le dictateur, quand il n'est pas là, ça ne marche plus. C'est ça le dictateur. Le leader, quand il n'est pas là, ça marche. Parce que les gens ont appris à travailler volontairement. Volontairement. On va le voir plus en détail au moment du dernier jour sur le leadership interactif. Aujourd'hui, je vais vous parler du leadership personnel. Après, je vais vous parler le dernier jour comment travailler avec les autres. Mais aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur le leadership personnel. Comment vous-même pouvoir vous motiver et vous inspirer à travailler volontairement à l'atteinte de buts pour votre vie. Donc, vous-même, en tant qu'individu. D'accord? Alors, je vais revenir un peu aussi à qui peut être leader. J'ai dit qui peut être leader, on a dit tous. Pourquoi d'abord tous, on peut être leader? Parce que Dieu nous a créés à son image. Si nous sommes croyants, un temps soit peu, et qu'on croit que Dieu nous a créés à son image, nous sommes l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est l'image du leader. Qui n'est pas d'accord avec ça? L'image de Dieu en nous, c'est l'image du leader. Donc, tous, on peut être leader. Première chose, ça c'est pas notre nature même. Deuxième chose, Dieu nous a donné la mission de gérer le monde. C'est clair, hein? Il nous a donné la mission, pas aux animaux, pas aux éléphants, pas aux lions, pas à la vache, même pas à la vache. Même pas à la vache. Mais il a donné ça, cette mission à l'homme. Donc, Dieu nous a confié la gestion de la terre. Donc, par notre nature, par la mission qui nous est donnée, nous sommes des leaders. Je vais raconter l'histoire d'un Philippien. Il y a un Philippien, c'est un de mes pasteurs qui me racontait ça, il était aux Philippines. Il dit qu'il a vu un Philippien qui cherchait à aller aux États-Unis. Il cherchait à aller aux États-Unis. Il part à l'ambassade, on lui dit, non, bon, il faut amener ton acte de naissance. Et il part chez son acte de naissance et il se rend compte, dans son acte de naissance, qu'il est né en territoire américain. Alors, quand il est reparti à l'ambassade, il est reparti vraiment comme un citoyen américain pour aller réclamer son passeport et ne plus le visa. Parce qu'il s'est rendu compte de qui il est. Nous, on doit se rendre compte de qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des leaders. Aussi longtemps que tu ne connais pas ta nature, tu n'es pas révélé, ton pouvoir n'est pas révélé. Mais tes droits ne sont pas révélés. Quand ce Philippien, il a compris sa nature, ses droits se sont révélés. Maintenant, il exige son passeport. Il n'exige plus le visa, il ne demande plus le visa. Il dit, je veux mon passeport, je suis citoyen américain. Donc, parfois, il est important qu'on découvre notre vraie nature. Qu'on ne croit pas qu'on est n'importe qui. Qu'on ne connaisse pas nos valeurs. Il faut qu'on découvre notre vraie nature. Notre nature, là, c'est l'image de Dieu en nous. Et ça, l'image de Dieu en nous, l'image de celui qui dit et ça s'exécute, l'image de celui qui a dit que la terre soit et la terre fut. Donc, nous sommes des leaders. Nous sommes des leaders. Qui peut être leader? Every one of us. Nous tous, chacun de nous peut être leader. Every single person, chaque individu est capable, peut être un leader. Maintenant, il nous appartient de manifester ce potentiel. Vous voyez, c'est ça le problème. La manifestation du potentiel de leadership. C'est ça qui nous manque. On a le potentiel, on refuse de manifester le potentiel. On refuse de manifester le potentiel. Dieu nous dit que nous pouvons faire des miracles, on préfère prier Dieu pour que Dieu fasse les miracles à notre place. Il est fatigué de faire les miracles. Il vous dit maintenant, faites les miracles. Il en a fait depuis longtemps. Suivez-je. Il nous appartient maintenant. Il nous a donné ça. 30. C'est bon. On va suivre. Tu appuies doucement, doucement. On va suivre. Ah, ou mais tu peux le faire comme ça? Ah, ok. Alors, la méthode tous leaders que je vous propose ici, la méthode tous leaders, c'est un triangle, le triangle d'or ou le triangle de la méthode tous leaders. Je pense, j'ai essayé de trouver un truc, un triangle, un schéma pour cristalliser tout ce que je crois en matière de leadership et que tout le monde peut être leader à travers ce schéma-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est écrit.
Ah, c'est vrai que...
Cohérence personnelle. J'aurais dû le faire en blanc, l'écriture en blanc. Je suis désolé. C'est cohérence personnelle qui est écrit. Cohérence personnelle. Cohérence personnelle. La première étape d'un leadership transformateur, c'est la cohérence personnelle. La cohérence personnelle, c'est quoi? Quand on dit quelque chose de cohérent, c'est quoi? Quelque chose de cohérent. Oui? Quelque chose de cohérent, c'est quoi? Quelque chose de cohérent, c'est quoi? Oui? On fait ce qu'on croit. Merci, ça c'est la cohérence. On fait ce qu'on croit. Très souvent on dit qu'on croit, mais nos actions ne montrent pas que nous croyons. C'est incohérent. D'accord? La cohérence, ça nous permet... Oui, quelque chose... Oui, votre idée, j'aimerais l'entendre. La cohérence. Mm-hmm. Exactement. Une suite logique. Quelque chose qui permet de maintenir la structure en place. C'est ça la cohérence. Qu'est-ce qui va permettre que notre structure, notre individu soit cohérent? Ça veut dire que qu'il y ait une cohérence entre notre personne, notre personnage ou nos personnages et notre personnalité. Qu'est-ce qui va permettre ça? C'est ça la cohérence personnelle. La cohérence personnelle. Parce que si vous n'êtes pas cohérent vous-même, c'est comme ça que votre entreprise ne sera pas cohérente. Vous êtes à l'image du reste de l'entreprise parce que vous êtes le leader. Vous savez, dans un avion, si le pilote n'est pas un bon pilote, quel que soit ce que les hôtesses vont faire, l'avion va s'écraser. N'est-ce pas? Quel que soit ce que les hôtesses vont faire, servir le bon café, le bon thé, vous donner à manger, vous demander avec le sourire, qu'est-ce qu'on peut pour vous? Tout ça, c'est zéro si le pilote n'est pas un bon pilote. L'avion va s'écraser. Leur effort et l'efficacité des hôtesses de l'air ne vont pas permettre à l'avion de ne pas s'écraser. Une erreur de pilotage est plus dangereuse qu'une erreur d'une hôtesse de l'air qui verse du café sur quelqu'un. À la limite, on peut lui donner même un billet gratuit et puis il va se calmer. Mais un pilote qui croit que vous êtes à 20 000 pieds alors que vous êtes à 10 000 pieds, ça c'est une erreur impardonnable. C'est une catastrophe que ça va créer. Donc, une erreur de leadership, de vision, est plus grave qu'une erreur de management. On va voir la différence entre les deux. Le management, c'est le day by day, tous les jours. Le leadership, c'est la vision. Si, ça ne sert à rien de bien travailler si vous ne travaillez pas dans le bon champ. Ou bien, prenez l'exemple, vous dites à des ouvriers d'aller travailler dans votre champ. Ils vont à côté de votre champ, ils travaillent correctement. À la fin de la journée, ils viennent vous dire, en tout cas, on a bien travaillé. Vous allez pouvoir votre champ, vous voyez qu'il a travaillé dans le champ du voisin. Leur correctement travaillé n'a plus de sens, puisque ce n'est pas au bon endroit. Il faut choisir où travailler pour bien travailler. C'est ça la cohérence personnelle. La cohérence personnelle nous aide à faire les bons choix, à avoir la vision de long terme de notre vie. Et maintenant, seulement après, on peut commencer à mettre en œuvre des actions pour atteindre cette vision. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut anticiper votre mort. Il faut, la vision à long terme de votre vie, c'est qu'est-ce que je veux faire up to my death day? Qu'est-ce que je veux faire jusqu'à ma mort? Jusqu'à ce que je quitte cette terre? Qu'est-ce que je veux faire? Ça, c'est le leadership personnel à travers la cohérence personnelle qui nous permet de faire ça. Si je définis ça, après ça, vous allez voir que je peux mettre en place des actions. Des actions. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller à gauche, je vais trouver que ce n'est pas ma mission. Je vais faire. Je vais à droite, je vais trouver que ce n'est pas là. Je vais devant, derrière. À la fin, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes toujours ici. Vous n'avez pas changé. Vous n'avez pas bougé. Vous avez fait gauche, droite, devant, derrière. Et, mais vous êtes revenu toujours position de départ. C'est comme moi, depuis ce matin, je fais comme ça. Je suis toujours ici. Je n'ai pas changé. Hein? Donc, alors que si on a défini la direction et qu'on est convaincu de la direction, alors je prends, paf, et puis j'avance maintenant. Parfois, en avançant, il va falloir que je fasse un détour, n'est-ce pas? Pour contourner certains obstacles, ou que je patiente. Mais je sais où est la direction. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, quand j'ai fait ma première entreprise, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un détour. Je suis allé travailler pour quelqu'un. Alors que j'étais convaincu que je suis un créateur d'entreprise. Depuis l'université. Mais quand j'ai fait ma première faillite, je me suis dit, bon, tu sais, quand tu fais une faillite de moins de 20 000 dollars, ce n'est pas que tu es un peu mauvais, que tu es non, un peu bon, c'est que tu es mauvais en management. Va, tu apprends en travaillant avec quelqu'un, tu regardes et puis tu vas revenir pour travailler pour toi-même. Et j'ai fait un détour. Je sais où est la direction. J'ai fait un détour à gauche, à droite. J'ai appris. Je suis revenu dans mon chemin. Et je continue. Il va vous falloir parfois faire des détours. Mais quand vous faites un détour, si vous ne savez pas la direction originale, parfois vous restez dans ce détour-là jusqu'à la fin de votre vie. N'est-ce pas? Vous restez dans ce détour. Alors que c'était un détour. Seulement. Parce qu'il n'y a pas de direction. Il n'y a pas de... C'est un philosophe qui disait, Sénèque. Sénèque disait, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. C'était l'époque où les bateaux marchaient à voile. D'accord? Donc, quand le vent souffle, d'est en ouest, si toi tu vas à l'ouest, tu as un vent favorable. N'est-ce pas? Si tu vas à l'est, c'est un vent défavorable. Mais comment savoir que le vent est favorable si tu ne sais pas où tu vas? Quand le vent souffle à gauche, à l'est, toi tu vas à l'est. Quand il souffle à l'ouest, ok, tu te laisses porter par le vent d'est en ouest. Ainsi de suite. À la fin, tu n'as pas bougé. Donc, le leadership personnel nous aide à fixer où nous voulons aller. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a la cohérence organisationnelle. Donc, après que vous ayez créé une cohérence en vous-même, vous allez maintenant rechercher la cohérence, la même cohérence, maintenant dans votre entreprise. Ça veut dire, comment faire en sorte que les gens qui vous accompagnent croient en votre vision? Comment faire en sorte qu'ils veuillent y travailler, qu'ils comprennent les enjeux? Je suis allé acheter un téléphone ici à Bujumbura. Je suis allé pour acheter un téléphone dans un magasin. Mon deuxième téléphone est gâté. Je suis allé acheter un téléphone. J'arrive d'abord, personne ne s'occupe de moi. Dans un grand magasin d'ici, j'arrive, personne ne s'occupe de moi. J'ai dit, il y a personne qui vend ici. Une dame qui était à la caisse et un monsieur qui s'occupait d'un autre client. La dame qui est à la caisse, je me suis adressé à elle. Il y a personne qui vend ici. Elle me dit, non, c'est le monsieur là qui vend, il va s'occuper de vous. J'ai dit, mais le monsieur, il est en train de s'occuper d'une dame là. Elle ne m'a pas répondu. Ok. Alors le monsieur qui a fini de s'occuper de la dame, il vient devant moi, il tient son téléphone. Il tripote son téléphone. Oui, tripote son téléphone. J'ai dit, mais monsieur, oui, ça veut dire quoi? Ok, je veux voir ce téléphone-là. Avec une mine serrée, il va prendre les clés, il vient ouvrir, il sort le téléphone, il me donne, et c'est tout. Je regarde le téléphone, ça me convenait. Mais j'ai décidé de ne pas récompenser une telle mauvaise qualité de service. Je ne peux pas faire ça. J'ai dit, je vais trouver un autre magasin, un autre téléphone. Je ne peux pas récompenser une telle mauvaise qualité de service. Je ne lui ai même pas demandé le prix, je suis parti. Certainement, il va se dire, ah, de toute façon, il n'avait même pas d'argent pour acheter le téléphone, ce n'est pas grave. C'est ce qu'il va se dire. Il ne va pas se rendre compte que c'est son comportement même qui a fait que je peux vous lâcher ce téléphone. Contrairement à ça, avant, j'achetais des téléphones qui étaient chers, parce que je suis très technologie. Les téléphones, je branche avec mon ordinateur, j'ai mes numéros de téléphone, tout. Mais j'ai perdu deux fois des téléphones qui m'ont coûté cher. Donc j'avais dit finalement, je n'achète plus de téléphones qui coûtent cher. Plus de 100 dollars, c'est fini. Alors j'arrive dans un magasin comme ça pour acheter un téléphone de moins de 100 dollars. C'était à Cotonou. J'arrive dans le magasin. Et alors le monsieur, il me dit, vous voulez un téléphone? Je dis oui. Mais mon regard était vers un téléphone. Vraiment, qui était le E71, Nokia E71. comme un BlackBerry et tout ça. Il y a toutes les fonctions que je veux. Et avant, j'avais le E65. Donc, c'est l'évolution du E71. Donc, je me suis approché, j'ai regardé. Et puis, il est venu me voir. Il a capté quelque chose. Il a vu mon intérêt, le vendeur. Et il est venu immédiatement. Il me dit, ah, ce téléphone, il est magnifique. C'est la première chose qu'il m'a dite. Ce téléphone, il est magnifique. C'est ce qu'il m'a dit d'abord. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. Il commence à m'expliquer les fonctions. Et je lui dis, mais si vraiment, moi, je perds mes téléphones tout le temps. Et c'est pas la peine. C'est mieux que d'acheter un téléphone qui soit pas trop cher. Là, au moins, je vais pas perdre. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, monsieur, c'est pas parce que on vous a volé votre mobilette que vous allez acheter un vélo. Il faut acheter une voiture pour faire mal au voleur. Il faut acheter une voiture. Là, tu fais mal au voleur. C'est ce qu'il m'a dit. Vous savez, c'est banal, mais ça m'a convaincu. Pourquoi ça m'a convaincu? Parce que j'avais déjà l'intérêt pour le téléphone. Il me manquait juste un petit déclic pour acheter le téléphone. Et puis, il a commencé à me dire, ce téléphone-là, si on te vole ça, tu envoies un SMS et ça bloque le téléphone. Tu ne peux rien faire avec. Je dis, ah bon? Il a continué à m'expliquer. Ce téléphone-là, tu peux faire si avec. Je regarde. Et je suis allé au magasin exprès avec moins de $100 pour être sûr de ne pas changer d'avis. Vous savez que je suis reparti à l'hôtel, chercher l'argent, venir prendre le téléphone. À $500. Vous voyez comment un vendeur peut faire toute la différence? Toute la différence. Par son leadership. Il a senti. Il fait toute la différence. Il m'a convaincu par des trucs simples. Hein. Il n'a pas fait la magie pour me convaincre. Il m'a dit simplement ce qu'il pensait. Et tu sentais en ce vendeur-là une envie vraiment de vendre. Hein? Et quand je lui ai dit que je pars à l'hôtel, il m'a pris mes coordonnées. Il a dit. Et après, il est revenu à l'hôtel pour voir le téléphone, ça va? J'ai dit oui, franchement, c'est un téléphone merveilleux. Je l'ai toujours, jusqu'à aujourd'hui, je l'ai. Ça fait 3 ans que j'ai ça. Je l'ai acheté à $500. C'est presque un ordinateur. Et alors que je partais pour acheter moins de $100. Comment quelqu'un peut me motiver à ce point? Parce qu'au départ, j'avais cette volonté. Et il a trouvé le ressort nécessaire. Alors que l'autre, tout simplement, j'avais envie d'acheter un téléphone aussi. Mais il m'a traité comme, je ne sais pas comment dire. J'ai pas eu envie de le récompenser. C'est comme le pourboire. Moi, dans un restaurant, je ne donne pas de pourboire si je n'ai pas été satisfait. Parce que c'est encourager les mauvais services. Non, c'est encourager les mauvais services. Le leader, la cohérence organisationnelle, c'est très important. Comment vendre cette vision? Maintenant, vous, en tant qu'individu, vous pouvez être un bon vendeur. Par exemple, celui qui a ce magasin, je me suis renseigné, celui qui a ce magasin à Bujumbura, c'est un bon vendeur. C'est pour ça qu'il a installé ces magasins-là. En l'occurrence, c'était à Dream House. Quelqu'un quand même de Dream House, quand tu le vois, tu sens que celui qui a fait ça, il a de la vision. Il a quelque chose en lui qui a permis qu'il atteigne ce point. Mais il ne va pas continuer si derrière lui, il n'y a pas des gens qui soient aussi leaders que lui. Lui-même, il ne sait pas qu'il a perdu des marchés comme ça. Il ne sait même pas. C'est pour ça que la cohérence organisationnelle est nécessaire. Il faut que vous vendiez votre vision et votre mission à ces gens-là. C'est indispensable. Pas vous seulement, mais vendre vos visions, votre vision et vos missions et vos valeurs aux gens qui vous suivent, qui traitent le client vraiment. On va le voir dans la fonction commerciale. Excusez-moi un peu si j'insiste beaucoup sur le client, mais c'est une entreprise, c'est la vente. Mais aussi, c'est une déformation professionnelle. C'est que j'ai fait un master en marketing. Donc pour moi, vraiment, quand je parle du client, je suis en train de faire une formation actuellement à Ecobank. En qualité de service. Et je leur disais que la raison d'être de toute organisation, c'est le client. Pas de client, pas d'entreprise. Il n'y a même pas d'autre débat. Que vous ayez de l'argent, que vous soyez ou que vous ayez des connaissances haut placées ou que vous connaissez des ministres, que vous connaissez, tout ça c'est zéro si vous n'avez pas de client. Pas de client, pas d'entreprise. C'est clair. La raison qui fait qu'une entreprise existe, c'est parce qu'il y a un client. Un besoin à satisfaire. Donc, si vous voulez créer des entreprises, vous devez anticiper. C'est pour ça que je vous ai dit que la première fonction à créer, c'est la fonction commerciale. Pour voir est-ce qu'il y a des clients. Pour voir est-ce que ça vaut la peine que vous existez. Puisque c'est ça votre raison d'être. Et croyez-moi, ce n'est pas clair dans la tête de beaucoup de gens. Quand je fais les formations dans les entreprises, je leur demande la raison d'être, c'est quoi? Ils disent, bon, on est là pour, à Ecobank notamment, ils m'ont dit, on est là pour être la première banque. Oui, la première banque, ça, c'est pas une raison d'être. N'est-ce pas? C'est pas une raison d'être. Ça, c'est une vision, une mission, c'est pas une raison d'être. Quand vous dites, j'ai créé mon entreprise pour avoir de l'argent, c'est pas une raison d'être. Est-ce que c'est une raison d'être? Non! C'est en satisfaisant un besoin que vous gagnez de l'argent. En l'occurrence, un client. Il faut que ce client-là existe. Ensuite, enfin, il y a l'amélioration continue. Alors, vous avez la base du triangle, c'est la cohérence personnelle. De la cohérence personnelle à la cohérence organisationnelle. Mais imaginez que vous ayez une entreprise qui marche. Est-ce que vous devez vous arrêter là? Vous ne devez pas vous arrêter là. Vous devez améliorer le système. Vous devez faire mieux. Vous devez faire mieux. Parce que vous savez, vous pouvez satisfaire le client et puis disparaître. Est-ce que vous savez ça? Vous pouvez satisfaire le client et disparaître. Parce que le besoin, vous ne l'avez pas renouvelé. Vous savez, parfois, il y a un monsieur qu'on appelle Sony. Sony, c'est lui qui a inventé le Walkman. Qui connaît le Walkman? Le Walkman, c'est Sony qui a inventé ça. Avant qu'il n'invente ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des études marketing. Les grands scientifiques comme nous, là, les marketeurs, ils ont dit, oh, il n'y a pas de besoin à Walkman. Les gens, ils écoutent la musique soit en discothèque, soit à la maison. Donc, comment ils vont écouter la musique en marchant? C'est quoi cette idée-là? C'est ce qu'on a dit au vieux Sony. Il s'appelle Sony, hein, le propriétaire. Le vieux Sony a dit, ah bon? Ok. On va voir ça. Contre l'avis des marketeurs, il a lancé son produit. Maintenant, c'est devenu presque la mode. Pour ne pas dire que tout le monde écoute la musique en marchant. En faisant le sport, en marchant. C'est devenu un outil qu'on utilise partout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé un besoin latent. Oui, ce n'était pas un besoin apparent. Il a réveillé un besoin latent. Et ça, c'est l'innovation et la créativité. On va voir ça. Qu'est-ce qui différencie les créateurs des investisseurs? C'est l'innovation et la créativité. Les investisseurs, ils ont de l'argent pour saisir les bonnes idées, mais les créateurs d'entreprises ont cette innovation et cette créativité pour même imaginer des choses qui, en apparence, n'existent pas, dont les besoins ne sont pas encore révélés. Qui est encore latent. On anticipe sur ça. Et c'est comme ça qu'il a créé le Walkman. Et aujourd'hui, tout le monde croit que c'est naturel d'avoir un Walkman. Tout le monde veut un baladeur, un MP3, machin. Tout le monde, on croit que c'est naturel. Ce n'était pas aussi naturel à l'époque. Hein. Alors, ça, c'est le schéma de base. On est à l'introduction. Donc, toute la formation sera basée sur ça. Mais aujourd'hui, j'avais dit qu'on allait enchaîner beaucoup plus sur qui. Vous qui vous êtes. Donc, aujourd'hui et demain. Hein? Donc, on va attaquer ce qu'on appelle le. Ce qu'on appelle le leadership personnel. J'aime bien ça, le leadership personnel. Le leadership personnel. C'est quoi le leadership personnel? Le leadership personnel est la boussole qui nous indique le nord. Et le management de soi est la montre qui nous dicte les actions à mener. Être leader, c'est mener et être manager, c'est faire exécuter. Donc, vous voyez la différence? J'ai mis en comparaison ici le leadership et le management de soi. C'est les deux qui vont nous permettre d'être cohérents personnellement. D'être cohérent, d'être un individu cohérent, c'est le leadership personnel et le management de soi. Donc, le leadership personnel pour fixer le but et le management pour marcher vers ce but. Vous voyez les deux notions? C'est les deux notions que vous devez absolument retenir pour ce module. Si vous oubliez tout ce que je vais dire dans ce module hein, de cohérence personnelle, dans ce module 1 du créateur d'entreprise, rappelez-vous de cela, leadership personnel et management du soi. Vous avez besoin de ces deux-là pour réussir. Personnellement. Parce que vous savez, la réussite est d'abord privée avant d'être publique. Est-ce que vous comprenez la différence? La réussite est d'abord privée avant d'être publique. La réussite, c'est d'abord sur vous-même, sur vos capacités, sur vos compétences avant d'être publique. Si vous ne réussissez pas à mener votre vie, vous ne pouvez mener la vie d'aucune autre personne. N'est-ce pas? Si vous ne réussissez pas à vous dire, moi, je veux faire ceci. Et arriver à le faire, comment alors vous allez motiver quelqu'un à dire, toi, tu vas faire ceci, et il arrive à le faire? C'est pas possible. Parce que vous-même, vous n'êtes pas arrivé à vous motiver vous-même. Vous ne pouvez même pas vous motiver vous-même. Pourquoi, comment est-ce que vous allez pouvoir motiver d'autres personnes? Donc, le leadership personnel est très, très important. Le leadership personnel consiste à découvrir le but. Mais on va faire un exercice avant de poursuivre. Un exercice sur la perception qu'on a de vous-même. Je veux demander de distribuer d'un côté, ouais, un côté, la moitié, ils ont une copie, et là, non, ok, la moitié comme ça, ici et là. Monsieur, vous avez vu maintenant? Est-ce que tout le monde a vu, voit maintenant les deux images? En faisant attention, vous pouvez maintenant voir les deux images. Hein? Hein? Oui, c'est pas la même image. C'est une image qui combine les deux images. L'image qui est au tableau combine les deux images que vous avez. Mais remarquez une chose. Aussi longtemps que vous aviez votre propre image, l'image que vous avez au départ, vous ne réussissez pas à voir la deuxième image. Jusqu'à ce que vous ayez reçu l'autre image pour comprendre maintenant que dans cette image, il y a les deux images. On appelle ça un exercice de perception. Notre perception nous fait changer de point de vue. Notre perception nous fait changer de point de vue. On pourrait, si chacun gardait son image, on pourrait faire un débat jusqu'à demain. Chacun va dire que c'est une jeune ou c'est une vieille. Jusqu'à demain. N'est-ce pas? On va faire le même débat. Alors que tout le monde a raison. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est la perception. J'ai conditionné votre perception à voir une jeune dame, ce qui était ici. Non, une vieille dame, ce qui était ici. Et vous, je vous ai conditionné à voir une jeune dame. Et forcément, vous voyez l'image, alors que dans cette image, il y a les deux. Mais on ne voit qu'un côté par rapport à notre passé, par rapport à ce qu'on a déjà vu. Vous voyez comment est-ce que notre passé, notre perception limite notre avenir? Vous voyez? C'est un exercice simple, un exercice de dessin. Mais c'est comme ça dans la vie. Nos expériences passées, notre vécu, notre vie passée nous limitent notre vision. Et on ne voit qu'un seul côté. On ne voit qu'un seul aspect. On ne voit pas les deux aspects. Jusqu'à ce qu'on nous montre l'autre image. Et alors, ça s'éclaire dans notre esprit. On commence à voir. On dit, ah, oui, c'est vrai. Effectivement. On vient de comprendre. La perception. Je vous dis quelque chose. Si vous voulez changer votre réalité, votre vie, vous devez commencer par changer votre perception. Ça ne sert à rien de vous mettre en marche, en train de courir, tant que vous n'avez pas changé votre perception. Tout commence par le changement de paradigme. Tout commence par le changement de perception. Tout commence par révolutionner vos croyances. Tout commence par révolutionner et questionner vos compétences. Tout commence par révolutionner et questionner votre vision. Et votre vision dépend de votre perception. Votre vision dépend de votre perception. Vous pouvez croire que le bout du monde, c'est là où s'arrêtent les nuages. N'est-ce pas? Et quand vous avancez, vous voyez que vous n'arrivez jamais. Les nuages reculent. Et vous dites, ah, finalement, le bout du monde, c'est où? Vous changez de perception. Quand vous montez sur une table, vous voyez différemment. Vous changez de perception. Comme on a su que la Terre était ronde, quand on a pu s'élever au-dessus de la Terre, on a vu maintenant la planète. On a une autre vision de la planète. On voit la Terre ronde. Mais on ne savait pas. Étant sur la Terre, on est tellement infiniment petit par rapport à la Terre qu'on croit que la Terre est plate. Alors qu'elle est ronde. C'est notre perception. Si vous voulez être de grands entrepreneurs, ça ne dépend pas des moyens que vous allez avoir. Ça ne dépend pas des relations que vous avez. Ça ne dépend pas du papa que vous avez. Ça ne dépend pas du passé que vous avez. Ça dépend de votre perception. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Ça, c'est très important. Parce que parfois, on est fermé à certaines idées parce qu'on dit non. On n'est pas ouvert à des idées. Notre perception, on est fermé. Un entrepreneur est créatif. Il est ouvert à des idées, même des idées qui semblent parfois farfelues. Il est ouvert à des idées. Il est ouvert. Open mind. Un entrepreneur, c'est ça. C'est la créativité. C'est l'ouverture d'esprit. C'est la capacité de percevoir quelque chose. Percevoir, c'est différent de voir, n'est-ce pas? Percevoir, c'est voir à travers, voir sans que ça ne soit visible comme ça. Ça, c'est percevoir ce que les autres ne voient pas. C'est ça l'entrepreneur. C'est ça l'entrepreneur. C'est ça le leader. Capable de créer de la valeur, de créer des ressources, de révolutionner et d'impacter son environnement. Votre perception, c'est ça la plus grande limite. Il est midi 5. Je n'aimerais pas ne pas tenir mon engagement d'arrêter à midi, bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à dire. Mais Dieu merci, nous avons encore d'autres journées. Alors je vais terminer en vous racontant une histoire. Une histoire pour la fin. Je m'engage à vous raconter une histoire tous les jours. Une au moins. Si j'en trouve d'autres, je vous rencontrerai plusieurs, mais au moins une pour terminer, pour vous relaxer et pour vous amener dans l'imaginaire. Alors, c'est l'histoire de quelqu'un, d'un homme qui a perdu ses clés. Alors, ce gars, il a perdu ses clés. Quelqu'un passait à côté de lui, il l'a vu. Il cherche ses clés. Il était à genoux même, carrément. Il cherche les clés. Il lui dit, qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mes clés. Ah bon? Ok, je vais t'aider à chercher. Lui aussi se met à genoux. Il cherche ensemble. Il cherche les clés. Il fouille pendant 15 minutes, pendant 10 minutes. Il dit, tu es sûr que tu as perdu tes clés? Oui, j'ai perdu mes clés. Il cherche ensemble. Il cherche encore. 15 minutes plus tard encore, il lui dit, est-ce que tu es sûr que tu as perdu tes clés ici? Il lui dit, c'est-à-dire que j'ai perdu mes clés dans ma maison, mais comme il y a plus de lumière ici, je suis venu ici pour chercher mes clés. Parfois, nous cherchons la cause de nos problèmes ailleurs qu'en nous-mêmes, alors que nous sommes nous-mêmes nos propres limitations. En agissant comme ça, on agit comme la personne qui a perdu ses clés à la maison et qui les cherche sous la lumière. Cherchons nos solutions en nous-mêmes. Nos croyances sont ce qui nous limite. Alors, changeons notre perception pour changer de croyance. Et quand on va changer de croyance, on va changer d'attitude. En changeant d'attitude, on change de comportement. En changeant de comportement, on change nos performances. En changeant nos performances, on change notre vie. Je vous remercie.